La Sexploratrice, présentée par Planet X. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. MonPlanetX.com. I know
how it sounds. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice en compagnie de Mel et Max.
Hey, salut.
Hello, hello.
Hello, hello.
Comment ça va, Max?
Oh, ça va bien. Ça va bien. Ça va toujours bien. Moi, jusqu'à temps que ça aille plus.
Bon.
Un peu de mal.
Moi aussi.
Simple de mal. Toi, comment ça va?
La gratitude de la journée, c'est quoi aujourd'hui pour toi?
La gratitude de la journée. Hey, je vais y aller avec de quoi de cheesy là, aujourd'hui. C'est d'être en vie.
Hey.
Ouais, c'est large, hein?
Oui, mais c'est parfait.
Bon, ben, c'est ça. Ça va être
c'est
ça aujourd'hui.
Parfait.
Toi?
Moi aussi. Ah, moi, j'ai de la gratitude pour, ouais, c'est ça, être en santé, être en vie, je pratique un métier que j'aime, je suis entourée de gens que j'adore, donc c'est ça, c'est ma gratitude de la journée, simple de même.
Comment ça va? Là, t'es revenue de Montréal aujourd'hui?
Oui, je suis revenue de Montréal un beau quelques jours à Montréal, en fait, pour l'enregistrement de différents podcasts. J'ai tourné l'émission en direct du studio de Montréal avec Rick Hard hier, ça a fait jaser. Puis merci beaucoup pour le sapin Radio X. Vous avez été généreux, vous avez été nombreux à faire des dons et on poursuit ça ce soir. Donc, je vous achale là fort fort, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour les enfants malades, pour la Fondation CHU de Québec, le département de radio-oncologie pour les enfants malades, finalement pour le volet pédiatrique. Et n'oubliez pas de nous mentionner, on est en live, oui, sur TikTok, mais également via le 88-670-9098. C'est vraiment là qu'on pourra lire tous vos commentaires, vos questions en lien avec nos invités ce soir. Et on va parler d'un sujet, je pense, qui touche plus de gens que je croyais, puisqu'avec un simple post sur Facebook, j'ai été inondée, j'ai même pas eu le temps de lire tout le monde. Donc ce soir, on parle de relations à distance, principalement, qui concernent les militaires.
Exact, oui, je pense.
Et on a la chance d'avoir avec nous ce soir des deux personnes importantes au sein du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Donc, Marie-Josée Longval.
Allô.
Que
salut.
Déjà via les studios ici.
Bonjour.
Bonsoir. Marie-Josée qui est gestionnaire et animatrice des réseaux sociaux.
Oui.
Pour le Centre de la famille. Et également Pascal Rochefort qui est travailleuse sociale et... donc, tu travailles également là, comme thérapeute, si on veut, auprès des familles et...
Oui. Intervenante psychosociale auprès des familles militaires, oui.
Yes, donc on va parler de ça. On va avoir également en entrevue Marissa Delisle et son conjoint qui sont un couple, finalement lui est militaire, donc conjointe de militaire, ainsi qu'un jeune couple qui vivent l'expérience de la relation à distance et lui est marin. Donc, j'ai vraiment très hâte de les recevoir en studio. Ils sont vraiment très sympathiques. Ils nous attendent dans l'ange. Puis ça va être en deuxième bloc. On va pouvoir échanger avec eux et à propos de leur réalité là-dessus. Donc, le Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier, en gros, qu'est-ce que ça fait?
Qu'est-ce que c'est ça? Hein?
Ça mange quoi, on y va?
Ouais, c'est un grand nom. En plus, hein, t'sais, le centre, avant, c'était le Centre de la famille. Ceux qui disent, c'est-tu le Centre de la famille? Oui, mais on a changé de nom pour s'harmoniser avec... Il y en a une trentaine là, de centres de ressources pour les familles militaires à travers le Canada. Partout où il y a une base militaire où il y a des familles, il y a un CRFM. Donc, le nom, on l'a juste harmonisé avec les autres CRFM à travers le Canada. Vous comprenez qu'il y en a coast to coast. Et puis, ben, c'est ça, le nôtre porte ce nom-là depuis 2 ans. Il y a le mot « famille ». Oui, dans notre nom. C'est centre de ressources pour les familles militaires. Ça ne veut pas dire que les gens qui font affaire avec nous, qui viennent nous voir, qui viennent nous consulter, doivent être mariés ou doivent avoir des enfants. On comprend
les célibataires sont également bienvenus.
Mais bien sûr. Enfin, quand on s'adresse à la communauté militaire, puis en ce qui concerne là, le centre de ressources, là, tous les gens qui viennent nous voir ou qui ont besoin de notre aide, besoin d'un coup de main, besoin de référence, ben, c'est des gens qui sont importants pour le ou la militaire. Bon, là, c'est le papa, la maman, les enfants, naturellement, conjoint, conjointe, mais meilleur ami. Moi, je pense à, je sais pas, une recrue, par exemple, qui aurait 17, 18 ans, postée un an après. Ben là, son meilleur ami, qui est probablement la personne qui gravite le plus proche dans sa vie, super inquiet, connaît pas ça, le monde militaire, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Mais bien sûr,
wow.
On va lui expliquer ce qui se passe. Puis cet ami-là, il peut se dire... « Hey, mon chum s'en va en mission, c'est-tu dangereux? » Puis même pas oser lui demander parce qu'il ne veut pas l'inquiéter ou je ne sais pas quoi. Bien, évidemment, on est paré pour répondre à ces questions-là. Je donne un petit exemple comme ça, mais c'est pour exprimer que c'est pas parce que ça dit famille que nécessairement on est obligé ni d'avoir des enfants, ni d'avoir un lien de sang avec le ou la militaire. En fait.
Puis, je vois que vous offrez même des services d'aide à l'emploi, à la formation professionnelle, des services de soutien lors d'absence, des services pour les nouveaux parents également. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment complet là, comme centre de ressources, vraiment dirigé pour les militaires, oui. finalement, et leurs proches. Et quels seraient les cas, en fait, qui vous consultent, Pascal, là, dans le cas de besoins là, au niveau psychosocial ou ce serait quoi la demande la plus courante finalement pour laquelle on vous consulte?
Je dirais que c'est assez varié comme demande, mais la majorité des clients qu'on va rencontrer, c'est beaucoup soit en lien avec une blessure psychologique que le militaire peut avoir ou le vétéran peut avoir, parce qu'on dessert aussi la communauté, les vétérans aussi, là, ouais. la famille de vétérans. Fait qu'il y a une bonne partie de notre clientèle que ça va être ça, pour répondre un peu aux impacts que la blessure peut avoir sur l'ensemble de la famille. Puis un autre des volets qu'on va beaucoup là, toucher, c'est le thème d'aujourd'hui, là, c'est les relations à distance. Quand les familles de militaires vont vivre l'absence, que ce soit un déploiement, que ce soit un exercice, ou des fois aussi, il y a des restrictions imposées. Là, c'est lorsque le militaire va... la famille va prendre la décision que le militaire, lui, va être muté dans une autre base, mais la famille demeure, par exemple, à Québec. Donc, il va avoir une relation à longue distance. Fait que, tu sais, il arrive des familles que, par exemple, la personne va être à Saint-Jean, va descendre à toutes les fins de semaine, mais son lieu d'attache au travail, c'est à Saint-Jean. Fait que, j'avouerais que c'est assez varié, puis ça va être beaucoup là, les impacts au niveau, là, au niveau de l'équipe d'intervention. On va faire du suivi de couple, on va faire du suivi familial, on fait du suivi individuel aussi auprès des conjoints-conjointes. Fait que souvent, là, lorsqu'on vit l'absence, ben, on va rencontrer, les gens vont nous appeler parce qu'ils trouvent ça difficile, sont pas tout le temps là, en lien avec la réalité militaire avant. Des fois, c'est la première absence, ils ont des enfants là-dedans, fait que c'est un peu ouais, comme ouais. ça.
Ah, ça doit être difficile! Et est-ce qu'il y a des enfants parfois qui peuvent avoir de la difficulté à vivre l'absence, finalement, d'un parent, et vous le soutenez aussi, j'imagine?
On va le soutenir, puis ça va dépendre un peu là, de c'est quoi le besoin. Si le besoin est vraiment plus d'avoir des trucs, des outils de manière générale, on a une équipe qui s'occupe vraiment là, de répondre à ces besoins-là. On a des collègues là, qui font un excellent travail au niveau de absence mutation, qui sont vraiment là pour répondre à des besoins ponctuels. Puis si on voit que la problématique est vraiment plus, est plus soutenue dans le temps, puis que les gens ont vraiment besoin d'avoir un suivi, là, puis de rencontrer un travailleur social, ben, ça va être moi ou une de mes collègues là, qui va les rencontrer à ce moment-là.
Généralement, d'après ce que tu constates sur le terrain, est-ce que c'est plutôt les militaires qui sont plus propices à venir chercher des soins au centre de la famille, le CRM, le nom institutionnalisé, ou c'est plutôt la famille des personnes militaires qui viennent vous voir?
C'est sûr que, tu sais, on est un centre de ressources pour les familles militaires. Fait qu'on va avoir majoritairement les familles, les conjointes. Majoritairement, c'est surtout les conjointes qui vont nous contacter. Fait que ça va être eux autres, la clientèle, là, qu'on va avoir le plus. Par contre, ça arrive dans certains cas qu'on va avoir des militaires qui vont nous contacter. Il faut comprendre aussi que les militaires, ils ont tout un réseau qui les supporte. Il y a le centre de santé des bases militaires qui sont là pour répondre aux besoins. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on va les référer. Souvent, les militaires qui nous contactent, on va les référer vers le centre de santé de la base.
Puis c'est toi, Marie-Josée, qui les approche pour à titre de prévention, si on le veut, ou à titre d'information.
Oui.
Donc, qui fait un peu l'entremetteur et qui explique aux gens là, de comment ça fonctionne, le centre et tout. Comment est-ce que ça fonctionne? Quelqu'un arrive, une recrue là, arrive.
Oui, bien des fois, ça arrive qu'on m'envoie justement parler aux recrues. Mais ça, c'est drôle parce que, tu sais, je me dis, c'est des jeunes. Écoute, ils doivent avoir 17, 18, 19 ans. La madame du centre de la famille, parce qu'on se fait encore appeler comme ça, notre ancien nom. La madame du centre de la famille arrive. Comprends-tu que dans la tête de quelqu'un qui a 17, 18, 19 ans, doit se dire... J'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle veut? Je pense que je vais dormir un peu.
Ouais, c'est ça.
Là, quand j'arrive pour justement, tu sais, au camp des recrues en bas, là, au camp des cadets, puis là, je m'en vais les voir, puis là, je leur dis, écoutez, gang, j'ai des affaires importantes à vous dire. Je sais que ça dit famille dans le nom de l'endroit où je travaille, mais vous êtes concernés parce que tout le monde a une famille, même si vous n'avez pas d'enfant. Venez pas me dire que vous n'avez pas une maman ou un papa qui est stressé parce que vous êtes rentré dans les forces.
Oui.
Ben, c'est à ces gens-là qu'il faut penser aussi. Donc, si je réussis à capter leur attention, là, je vais pouvoir leur passer d'informations. C'est certain que je ne vais pas leur parler du service de garde, je ne vais pas leur parler de ces choses-là, mais dire, regardez, quand vous allez partir, là, ça se peut que ça inquiète vos parents, ça se peut que ça inquiète votre frère, votre sœur, tout ça.
Comment aborder le sujet?
Vous pouvez nous les envoyer, puis ils vont être contents de savoir qu'ils peuvent venir au centre. puis vous faire un beau petit colis, puis vous l'envoyer quand vous allez être en mission en dehors du Canada. Non seulement on va vous donner la boîte, on va vous dire ce que vous pouvez mettre dedans ou pas, puis on va l'envoyer. Donc, ça peut être une bonne façon de prendre contact avec nous, là, s'ils font le message, évidemment, à leur famille.
Oui, ouais, fait que vous leur donnez les outils, autrement dit. Parce que ça peut faire peur quand tu arrives dans le milieu militaire, que ce soit pour une conjointe ou un conjoint, puis tu connais pas ça.
Oui.
Parlant de ça, d'ailleurs, pour les relations à distance, parce que quand on est militaire, on est déployé souvent en exercice, en mission. Forcément, la relation à distance, c'est quelque chose qui arrive énormément au courant d'une carrière militaire. C'est quoi les impacts principaux que tu remarques chez les gens qui vivent cette absence-là au quotidien, Pascal?
Bien, je dirais que les impacts, c'est surtout la période avant. Tu sais, on dit souvent là, qu'il va y avoir un 6 semaines avant le déploiement que là, il va y avoir des stresseurs là, au niveau familial. Puis tu sais, les stresseurs, c'est souvent des stresseurs du quotidien. Fait que ça va être des stresseurs comme souvent, ils vont partir à cette période-ci de l'année. Fait que là, les abris tempo, le déneigement, tout ce qui est au niveau de la gestion là, du quotidien, là, la tâche que les parents portent ensemble, bien là, c'est là un parent qui va le porter tout seul. Fait que ça va surtout être ça, les stresseurs qui vont revenir.
Est-ce que vous offrez de l'aide pour ça?
Bien, on va offrir souvent on a des listes, en fait, là, de choses qu'ils peuvent mettre on a comme des checklists que les gens peuvent cocher pour se préparer à un départ. Fait qu'à une absence. Fait que c'est des choses qu'on va mettre. Puis on a comme sur notre site Facebook, on a une partie où est-ce qu'on a un bottin de ressources comme dans les sous-groupes de notre page Facebook. Fait qu'on a plein de services qu'on met là-bas, là, des gens là, qui nous partagent leurs services. Fait que, tu sais, si on a besoin de déneigement, si on a besoin d'avoir aussi des ressources pour la tonte de gazon, si on a besoin d'aide pour les devoirs, tu sais, c'est plein de ressources qui vont être retrouvées là. Fait qu'on va les orienter vers ces ressources-là. Puis si la problématique, comme que je dis, elle se maintient dans le temps, plus ça va devenir plus au niveau émotionnel. Là, la personne a des symptômes, là, on va parler d'épuisement parce que là, ça devient une tâche beaucoup trop lourde à porter. C'est là, à ce moment-là, où est-ce qu'on va souvent la référer vers une travailleuse sociale qui va lui permettre de comment qu'elle peut
canaliser ça un peu.
Oui, bien, un peu prioriser. C'est quoi les priorités qu'elle peut mettre en place? Parce que souvent, elle essaie de tout faire, la personne qui reste. Je vais essayer de tout faire puis de tout parler, mais c'est irréaliste de penser qu'on va prendre toute la charge de deux personnes.
Hey, c'est quelque chose. J'ai un ami avec qui je parlais tout à l'heure, un ex-militaire qui maintenant, bon, est sorti de l'armée, mais son ex-conjointe, la mère des enfants, de ses trois enfants, est toujours dans l'armée. Et il y a 2 semaines, il a appris qu'elle allait partir pour la troisième fois en 4 ans. Elle va partir pour 7 mois.
Ah, ouais, c'est
durant 7 mois. Il a 2 garçons de 8 et 9 ans qui jouent au hockey, une jeune fille qui, je pense, fait du cheerleading, en tout cas, quelque chose comme ça. Il habite au lac Saint-Joseph. Écoute,
c'est du voyagement. C'est...
Wow! Ouais. C'est quelque chose, là. Donc, ça, est-ce qu'il y a moyen d'avoir du soutien de ce côté-là? J'imagine que c'est plus le soutien moral et psychologique, là, finalement.
Ça va être plus du soutien moral et psychologique.
C'est le choix qu'on fait aussi.
C'est ça. Puis de voir à la personne, est-ce qu'il y a des choses que tu peux prioriser? Tu sais, on dit tout le temps qu'il y a 3 bacs. Là. Il y a le bac important, il y a le bac de recyclage puis la poubelle.
Ben, c'est bon, ça.
C'est aussi d'amener la personne à dire, là, tu vis quelque chose qui est sur une longue période de temps, mais qui est temporaire aussi. Mais qu'est-ce que tu peux prioriser puis qu'est-ce que tu peux mettre dans le bac à poubelle?
Oui, mais puis au-delà des tâches quotidiennes, des choses qui sont à accomplir au quotidien, au niveau psychologique, ça demeure quand même violent parce que tu passes le plus clair de ton temps avec la personne aimée, la personne qu'on chérit. Puis du jour au lendemain, ben elle disparaît pendant une période indéterminée. Puis souvent, ben il y a le contexte de « Hey, elle s'en va faire quelque chose de potentiellement dangereux, loin de moi. Ouais. » Alors, comment vous supportez les personnes qui vivent ce genre d'absence?
Ça va être souvent, ils vont se ramasser dans nos lignes là, au niveau du travail social. Ce qu'on va faire un peu, c'est de permettre d'avoir un endroit pour ventiler par rapport à ce que la personne peut vivre. C'est souvent des inquiétudes que la personne va avoir. On a aussi quand même un lien avec les chaînes de commandement qui nous permet d'avoir un peu d'informations puis pouvoir en donner à la famille parce que souvent, là, si on parle à les dernières personnes qui sont parties il n'y a pas longtemps, ils l'ont appris à la dernière minute. Les familles l'ont appris à la dernière minute.
C'est ça, il n'y a pas de délai. Ils l'ont appris quand? Ils doivent partir quand?
Certaines familles l'ont appris. Là, on parle de quelques jours là, avant, là, même pas une semaine avant. Oh! Fait que, puis eux autres, il faut qu'ils se mettent en option. Il faut qu'ils préparent leur sac. Il faut qu'ils se mettent en mode « je pars ». Puis ils ne savent pas nécessairement combien de temps qu'ils vont revenir non plus.
Oh.
Fait que c'est le stress que les familles peuvent vivre. Puis c'est ça, fait que dans le fond, ça va être surtout là, de leur permettre d'avoir un lieu pour ventiler. T'sais, des fois, il y a des familles qui peuvent avoir des frustrations aussi par rapport aux forces. T'sais, si on parle de des personnes, des fois, qui sont parties en Lettonie puis qui sont revenues il n'y a pas si longtemps puis qu'en plus, ils ont fait « when right », puis que là, en plus, il faut qu'ils repartent, bien, c'est plusieurs absences. Là. Des fois, dans une année, là, il y a moins de temps à la maison que de temps en partie. Fait que ça va leur donner, tu sais, l'essentiel, c'est de leur donner un lieu où ils peuvent parler puis pouvoir ventiler, puis leur donner un peu d'outils puis d'informations aussi, parce que comme on parle, ceux-là qui sont partis récemment, ils n'ont pas eu le temps là, de donner de l'information avant de partir. C'était go, 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 on part. Bien, nous autres, on peut les aider. Puis ça va surtout être mes collègues au niveau de l'absence mutation qui vont faire cette partie-là. Puis quand ça va devenir vraiment là, la personne a des symptômes d'épuisement, ça va être nous autres qui va le prendre.
Puis est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui back, qui disent non, finalement, je veux plus partir, puis je veux... Est-ce que tu en as vu?
Ben, tu peux pas vraiment, je pense, dans l'armée, t'as pas vraiment le choix.
T'as pas le choix, là. T'es rendu là, t'es engagé.
Au moment où ils disent le gros, tu pars, tu pars.
Mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est pas apte à partir parce qu'il est trop anxieux, disons, là, je veux dire, ils l'enverront toujours bien pas.
Ah, mais c'est une bonne question, ça.
C'est sûr que là, on tombe plus dans le volet militaire.
T'en as pas vu. T'en as pas vu.
Ben, ça a déjà arrivé, mais c'est plutôt rare.
Ouais,
des situations comme ça, c'est vraiment propre. Puis, tu sais, généralement, les gens qui se font dire qu'ils vont partir, c'est parce qu'ils vont partir.
Ils sont tellement entraînés, ils sont tellement prêts.
Oui.
Quand on parle de dernière minute, je pense que ça donne une impression de « on n'est pas prêt, oh mon Dieu, ça arrive », mais il faut comprendre qu'on a travaillé en amont avant.
Mm-hmm.
Tu parlais à Pascal d'absence mutation, il y a justement beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là avec, tu parlais des checklists. Mm. Je pense que toutes les familles militaires sont toujours prêtes à ce qui peut arriver quelque chose.
Ils sont craqués pour ça, en fait. T'sais, ils sont... préparer à ça dès le jour 1 où ils en
dès le jour
l'armée.
1, si là où la militaire s'absente, puis il y a une loi qui existe comme de quoi un tuyau d'eau chaude pète tout le temps quand le militaire est absent.
Toujours.
Toujours, absolument.
La loi de Murphy.
Oui, ça s'applique. Mais est-ce que la personne, c'est le conjoint, la conjointe qui reste, est-ce que lui, il a le droit d'appeler l'assurance puis demander, par exemple, d'avoir un remboursement? Y a-tu accès au compte conjoint? Ça prend-tu une signature ou on est... Tous ces petits détails-là de patte de mouche, dites-vous qu'on a accumulé ça avec toutes les années, on a tout réuni ça sur notre checklist et tout est fait. Tu sais, quand tu deviens une famille militaire, ben normalement, là, cette checklist-là là, est tout le temps à jour et tout le temps prêt. Et quand le truc de dernière minute arrive, oui, c'est plate, oui, c'est déstabilisant, mais t'en as un bout de fête, pareil.
Mm-hmm. Oui. Et la majorité des familles militaires habitent à Valcartier ou à Shannon?
Ben, il y en a plusieurs qui habitent dans l'environnement. Là,
est-ce que c'est une obligation? Non.
Oh non, non. OK.
C'est pas une obligation d'habiter là, à Shannon. En fait, ils ont une obligation d'habiter à tant de kilomètres de la base. Fait qu'il y a des gens qui à Pont-Rouge, il y en a un peu partout.
Oui.
Je dirais que de plus en plus, les gens s'éloignent justement des bases. Fait que c'est pas tout condensé à Shannon.
Mais Shannon, c'est cool, par exemple. Je peux prêcher pour ma paroisse. Je suis tellement bien là.
Le plus beau secteur à Québec. Hein?
Ah, vraiment, c'est un beau lieu pour vivre.
Oui, puis Max, toi, tu viens de là.
Oui, moi, j'ai grandi sur la base militaire dans les PMQ, là, tel qu'on les appelle.
Ouais.
Dans les nids de poulet. J'ai grandi ça à Rue Canune quand j'étais jeune, mon père étant militaire, donc j'ai passé le plus clair de mon enfance là-bas. Donc c'est une réalité que je connais très bien.
Comment t'as vécu ça?
Ben, écoute, ça va comme ça vient. Hein. Il y a des moments où c'est plus difficile, il y a des moments où c'est un peu plus stable, mais le plus clair du temps, quand t'es enfant, c'est que t'es confronté à un manque de réponse. Puis c'est là que je voulais en venir. Quand est-ce que tu sens, d'après ce que tu constates, quand est-ce que tu sens que ça a un impact chez l'enfant, l'absence des gens qui s'en vont incessamment comme ça?
Ben, c'est sûr que, comme on dit, il y a des choses qu'on peut faire pour préparer. C'est sûr que même si on prépare et qu'on a toute la bonne préparation, bien, les enfants peuvent vivre les impacts. Les impacts qu'on va voir au niveau de l'absence chez les enfants, ça va être plus des changements au niveau comportemental. Anxiété de séparation, des enfants qui vont être plus en réaction, qui vont plus réagir par rapport au retour, à l'absence. Ça va être des enfants qui vont... ça va se répercuter à l'école. T'sais, on va le voir là, à l'école que ça va être vraiment plus difficile. Les professeurs vont dire c'est plus difficile, ils écoutent moins, ces choses-là.
Est-ce que c'est fréquent?
Je dirais qu'il y a ce qui aide beaucoup par rapport à avant. T'sais, moi aussi, là, mon père était militaire. Puis par rapport à quand toi, Max et moi, on était jeunes, ce qui aide beaucoup, c'est que là, ils ont accès aux réseaux sociaux puis ils ont accès au FaceTime. Fait que il y a un contact qui est fait. T'sais, moi, quand j'étais petite, les seuls contacts que j'avais, mon père m'envoyait des boîtes avec des cadeaux s'il pouvait. Mais on l'avait pas de contact, je l'avais pas visuel. Fait qu'il y a quelque chose qui est aidant. C'est que là, maintenant, ils peuvent faire des FaceTime, tu sais, ils peuvent voir leurs parents même s'ils sont absents. Fait que je trouve que avec le temps, ça s'est un petit peu atténué les impacts. Ça crée d'autres enjeux, par exemple. que ça crée comme enjeu, c'est que quand que le parent va être parti, des fois, on voit des parents qui sont en mission puis qui font de la discipline à la maison parce qu'il peut par téléphone. Fait que c'est là les autres enjeux qu'on va voir, qu'on ne voyait pas avant. Fait que je trouve que ça, ça l'aide un petit peu. Souvent, ça va être le plus gros de ce que je vais voir, ça va être au retour que c'est difficile.
Oui, effectivement.
C'est vraiment au retour.
Ah oui?
Ouais.
C'est quoi les impacts les plus typiques des gens qui reviennent de mission, par exemple? Parce qu'ils vivent des choses ben, parfois épouvantables, très difficiles à l'étranger. Quand ils reviennent dans le couple, comment ça se traduit?
Ils ont une période, hein, je pense, de repos ou de remise à Chypre.
Ils ont une
à Chypre? Ben, tout dépendamment de où est-ce qu'ils sont dans le monde.
Oui, ça dépend de où est-ce qu'ils sont dans le monde. Oui, il va y avoir une période, des fois, elle peut être très courte. Tu sais, là, il y a des enjeux par rapport à l'absence, puis il y a des enjeux par rapport à ce que la personne peut développer, une blessure suite à ce qu'elle a vécu. Là. Fait que, tu sais, il y a comme deux volets. Le premier volet, je vous dirais que souvent, ben, ce qui arrive, c'est que la personne, elle va arriver, mais elle va vouloir rattraper son absence. Fait que là, elle va arriver, puis elle va vouloir tout faire. Sauf que la conjointe, elle avait sa routine, elle avait tout déjà d'établi. Puis là, la personne, elle arrive, mais elle arrive trop vite, si on veut. Puis ça déstabilise l'ensemble de la famille. Fait que ça serait souvent l'impact que je vois, là, ça prend quelques semaines avant de se stabiliser, puis qu'il faut faire sa place, puis on dit souvent, c'est comme la corde à danser, dans le fond, là, quand tu les vois, tu sais, on a une vidéo sur notre page Facebook de ça, mais tu sais, quand tu rentres dans une corde à danser, il faut que tu l'analyses, mais c'est la même affaire pour le militaire quand il revient.
Okay.
Analyse ta famille, analyse avant de rentrer dedans.
Est-ce que vous offrez d'emblée un soutien pour ça, ou c'est vraiment les familles qui vous contactent au besoin?
C'est selon la demande.
OK.
Puis, okay. Mais les gars puis les filles qui reviennent, ils savent pas nécessairement ça en revenant toujours. Donc, comment ils s'adaptent?
Ils vont avoir une préparation au départ. Souvent, c'est sûr que quand on est à court délai, on n'a pas nécessairement le temps de toutes les appeler. Mais souvent, là, l'équipe d'absence mutation, ils vont faire vraiment là, des appels à chaque personne qui part en déploiement. Ils vont faire des appels pour expliquer les besoins sur le plan de la famille puis parler des services. Fait que la famille va avoir les ressources tout le long de l'absence, fait qu'elle est appelée à nous appeler si elle a quoi que ce soit. Mais ça serait un des enjeux. Puis l'autre enjeu que je vois, c'est plus sur une longue période de temps, ça va être si la personne, elle a développé un traumatisme lié à ce qu'elle a vécu dans la mission.
Oui.
Bien là, ça va avoir des impacts, mais ça, on parle de sur une plus longue période de temps après. Là.
Est-ce qu'on a levé les tabous concernant les blessures de stress opérationnel, que ce soit les BSO, les TSO, selon ce que tu vois?
Peux-tu expliquer TSO?
Ben, en fait, il y a des... Lorsque les militaires sont déployés à l'étranger, souvent lors de missions, en guerre, en terrain opérationnel, tel qu'ils l'appellent, en théâtre opérationnel, souvent, ben, ils développent des chocs post-traumatiques, des blessures de stress opérationnel. Puis, ben, ça fait en sorte que ça a beaucoup d'impact, non seulement dans leur vie personnelle, mais dans leur vie familiale, dans leur vie de couple également. Et dans les dernières années, on a levé le voile un peu sur cette problématique-là, mais j'ai encore l'impression qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez, surtout parce que ceux qui sont au sein des forces armées, il y a encore un tabou qui est très, très, très présent. Toi, c'est quoi ton input là-dessus? T'es sur le terrain, tu le vois, tu le constates, t'es en même de voir ce qui se passe. Est-ce que les tabous sont encore très présents?
Je dirais que ça l'a évolué dans le temps parce que, tu sais, avant, on parlait beaucoup du post-traumatique, vraiment. Maintenant, on est allé plus vers la blessure de stress opérationnel.
Si t'avais à expliquer les différences entre les différents, parce que c'est ça, il y a le BSO, il y a le TSO, même, je pense qu'on se perd tous un peu là-dedans. Là.
Oui, il y a l'état de stress post-traumatique.
Okay.
Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on connaît, là, qui est relié à un événement traumatisme associé à une mission ou quelque chose qui pourrait avoir eu lieu dans l'armée puis qu'on aurait gardé un traumatisme par rapport à ça. Mais on appelle aussi une blessure. Nous, on va parler beaucoup de blessure de stress opérationnel. Ça, c'est un terme, en fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que les gens pouvaient développer des enjeux sur le plan psychologique de leur parcours dans les forces, mais qui n'étaient pas nécessairement reliés à un événement traumatisme ou à un déploiement nécessairement. T'sais, les forces, on se le cachera pas, c'est un milieu où il y a un stress continu, il y a un stress permanent. Tu sais pas tout le temps si tu vas être à Québec l'année prochaine, tu vas-tu partir en mission, tu vas-tu...
Il faut vivre selon avec une philosophie un peu de lâcher prise. Hein,
sur, oui, extrêmement.
On connaît pas le futur, on sait pas où est-ce qu'on va être, autant pour la conjointe, les enfants, tout c'est ça, c'est fou. Là.
C'est extrêmement vivre dans le moment présent. Puis ce qui arrive, en fait, c'est qu'il y a des gens qui développent des problématiques de santé mentale en lien avec l'expérience au niveau des forces, mais pas d'événements traumatismes. Fait que c'est de là vient la blessure de stress opérationnel, c'est que ça englobe une panoplie de diagnostics qui peut être reliés au parcours militaire de la personne.
Okay.
Fait que t'sais, on va parler des problèmes de dépendance, on va parler de du stress post-traumatique aussi. On va parler d'anxiété généralisée, de dépression majeure. Fait que plein de diagnostics qu'on voit un lien avec le parcours des forces.
Est-ce que tu vois beaucoup de séparation au retour des, des militaires?
Oui et non.
OK.
C'est pas tout le monde qui vient nous voir.
C'est comme dans le milieu civil, là, finalement.
C'est ça. C'est comme le milieu civil. J'ai l'impression qu'il y a... c'est un volet un peu plus personnel, mais j'ai comme l'impression aussi que c'est une culture militaire. Fait qu'il faut adhérer à cette culture militaire, autant comme étant conjointe que comme étant militaire, pour pouvoir justement... Parce qu'il y a énormément d'impact, on se le cachera pas. Fait que souvent, les séparations, c'est souvent lié à ça, t'sais. Est-ce que la personne est capable... Ça prend de l'indépendance, ça prend de l'autonomie, ça prend une capacité d'adaptation phénoménale, une confiance phénoménale. Est-ce que la personne, t'sais, elle veut ça dans sa vie, avoir à vivre ça? Il y en a que c'est non. Puis je pense pas que c'est nécessairement relié aux absences ou à la BSO ou à... Je pense que c'est juste la personne, c'est pas ce qu'elle souhaite. Là.
Oui, il y a quand même des avantages à l'amour à distance comme ça. Et on va en parler après la pause avec Marissa Delisle et son conjoint, ainsi qu'avec Justin et Mélodie qui seront en onde avec nous. Donc, vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
De retour avec Mel et Max durant la Sexploratrice. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X. On avait Pascal Rochefort et Marie-Josée Longval du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. C'était super intéressant. Ils vont assurément revenir pour nous parler de plein d'autres projets en lien.
On les remercie d'être venus. Vraiment, je pense que ça touche beaucoup de nos auditeurs. On a beaucoup de militaires qui nous écoutent. Puis, sincèrement, c'était tellement intéressant. Moi, ça me fascine. Évidemment, je viens de cet univers-là. Mon frère est militaire. Je suis un fils de militaire.
Alors, on connaît tous des militaires.
Mais on en connaît tous.
Hein? On connaît tous des militaires. Donc, on va poursuivre cette belle émission avec Marissa Delisle et son conjoint François Bellé, qui est, lui, militaire, et Justin et Mélodie, à qui on va parler un petit peu plus tard. Vers la fin de l'émission, là, en lien avec justement son métier de marin.
Là, donc, c'est qui, Marissa?
Marissa Delisle, mon Dieu Seigneur, Marissa Delisle, qui est très présente sur les réseaux sociaux, qui est une paillette, entre autres. Bonsoir, Marissa.
Hello, comment ça va?
Ça va bien.
Moi, j'ai dit à Max, t'es pas prêt pour Marissa.
On est rarement prêt pour moi.
T'as commencé avec une curiosité, là. C'est quoi une paillette?
Oh, une paillette! Ben, en fait, ça fait plusieurs choses. En fait, moi, je travaille pour l'entreprise Les Paillettes, Paillettes Inc. Tu connais pas ça, Maxime?
Mais non!
Ben, tabarouette!
Qu'on tire des tomates!
Je te fais un petit résumé. En fait, Paillettes, c'est une entreprise qui aide les femmes depuis presque 8 ans, les femmes entrepreneurs en développement personnel, à se réaliser. Et on veut leur rappeler, en fait, qu'elles sont nées pour briller. On veut les guider, les inspirer à travers leur parcours personnel, entrepreneurial, à travers des formations, des événements, des podcasts et tout ça. Donc, c'est en gros, le gros résumé, c'est un peu ça.
Ah ben ça, c'est cool. Vous avez
moi,
tout
les
respect.
Paillettes m'ont vraiment beaucoup aidé. Oui, c'est vraiment un regroupement de femmes d'affaires qui est dirigé par Mélissa Robert.
T'étais là-dedans?
Oui.
Ah, OK. Fait que t'es un success story.
Non.
Ben oui.
Les paillettes. Non. Au contraire, je suis allée chercher du soutien.
Ben c'est ça, c'est la preuve que ça marche.
Oui, ben oui, vraiment.
Ben oui, vraiment.
Oui.
Plusieurs. On est plus de 600 clientes.
Vu de même.
Chaque année, là. Non, c'est.
Et puis ils font un bal des paillettes. Puis en tout cas, c'est très. C'est parfait. Allez voir ça, le Paillette Inc. sur les réseaux sociaux. Marissa. Tu es la conjointe d'un militaire. Est-ce qu'il est avec nous au téléphone? Non, hein? Il pouvait pas.
Oui. Et là, il y a un seul. Oui, on était. Hey, on est vraiment redneck. On a comme chacun un écouteur, puis on écoute. Puis c'est
ça, c'est drôle. OK. Donc, vous êtes ensemble depuis presque 8 ans.
Oui.
Et ton conjoint est militaire depuis maintenant 6 ans.
Ouais.
OK. Donc, ton conjoint est entré dans les forces en tant que technicien d'armement en aviation en 2017, après une carrière en tant que chef cuisinier de profession.
Exactement. Ben oui, il a viré de bord de même, toi.
OK. Puis là, vous êtes. Vous habitez actuellement à Bagotville, est-ce que c'est ça?
Oui. Okay. Ça fait un an qu'on est. François a été muté au Saguenay depuis un an, oui.
Vous êtes là-bas à cause de la base aérienne, j'imagine?
Oui, exactement.
Puis vous êtes allé, quand vous avez habité en Nouvelle-Écosse, vous avez fait.
Ben oui.
Vous en avez fait du chemin, là. Peux-tu m'expliquer comment Comment, en fait, quand tu l'as rencontré, là, ça a été quoi ta réaction? Tu sais, je veux dire, c'est quand même... est-ce que tu savais qu'il était déjà militaire ou est-ce que ça a été un frein pour toi? Comment tu as vécu aussi les séparations, finalement? Tu sais, les moments où il était posté et tout, là, ça doit être quand même tout qu'un défi.
Écoute, c'est toute une histoire. Quand on s'est rencontrés en 2015, en fait. Il était pas dans l'armée, il était chef cuisinier. Moi, j'étais encore à l'université. On avait des gros projets. Moi, je voulais aller travailler en télé. François, lui, voulait ouvrir son restaurant. Fait qu'on avait tout que des projets qui ont vraiment viré de bord, en fait. À un moment donné, il trouvait que les horaires avec les restaurants, tout ça, c'était pas super bien fait. Moi, je travaillais le jour, il travaillait le soir. Avec les salaires, tout ça, c'était pas super. Puis à un moment donné, lui, son père et son frère étaient déjà dans l'armée. Fait qu'il s'est dit, ben, pourquoi pas? Tu sais, il a fait ses recherches, il a regardé les métiers qui étaient payants, qui étaient le fun aussi, là. Il a pas juste été dans l'armée pour aller dans l'armée. Fait qu'il avait décidé de devenir technicien d'armement. Puis, mais c'est quand même un long processus. Tu sais, là, faut que t'appliques. Là, fallait qu'il refasse ses maths de secondaire 4. Après ça, là, le cours de recrue 3 mois. Après ça, son cours de métier 1 an. Fait que là, c'est tout qu'un processus avant de se rendre au bout. Mais
sans savoir si ça va être accepté, finalement. Il y a quand même des tests aussi physiques à faire, j'imagine.
Ben, c'est ça. Puis un coup qu'il a fait les tests, en fait, là, il est accepté, puis il part au camp des recrues 3 mois. Puis moi, je sortais avec lui, là, c'était pas ça le plan, là. Puis moi, j'étais un peu naïve, tu sais. Je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. C'est vrai qu'on le sait pas au début. Je me disais, ben oui, il va aller faire ses cours, puis tu sais, le temps qu'on soit posté, tu sais. Puis ça va vite, hein. Ça va plus vite qu'on pense. Puis on a été un an et demi quand même à vivre à distance pendant qu'il faisait ses cours de recrue. Puis après ça, son cours de métier, il était à Saint-Jean, à Montréal. Moi, j'étais à Québec. Après ça, il était en Ontario.
Tout qu'un défi pour le couple.
Honnêtement, moi, j'avais jamais vécu seul, puis on avait un appartement ensemble. Il est parti du jour au lendemain, puis j'avais pas de contact avec lui pendant pratiquement 5 semaines. Il pouvait pas sortir, on pouvait se parler une demi-heure par soir si ça fonctionnait. Des fois, je pouvais pas lui parler du tout pendant comme une semaine. Ça a été extrêmement difficile. Je me rappelle encore la première nuit qu'il était pas là, je me disais, mais mon Dieu!
Dans quoi jamais... je me suis embarquée?
Mais j'ai dit, comment je vais pouvoir te faire ça un an? Puis, tu sais, quand il va repartir, je capotais. Je me disais, je suis pas assez forte pour vivre ça. Puis on se forge un caractère, puis on développe notre résilience pour de vrai. Si on le développe vraiment, mais c'est tout que, ouais, c'est quelque chose vu à distance.
Puis comment est-ce que vous arriviez à maintenir la flamme à distance? Est-ce qu'il y avait des échanges un peu coquins permis de temps en temps?
Ben là, bien sûr, on n'a pas le choix.
Bien sûr!
Si tu veux. Ben, en fait, ce qui est le fun aussi avec la relation à distance, c'est quand tu te revois, on dirait que tu retombes en amour. Fait que, tu sais, la première fois que tu es revenu de Saint-Jean, François, me semble, ça faisait 5 semaines qu'on s'était pas vu, j'étais gênée. Puis ça faisait quand même 2 ans qu'on sortait ensemble, j'étais gênée, j'étais excitée de le revoir. Puis on dirait que tu gardes la flamme aussi avec ça parce que tu entretiens ça pendant qu'il est pas là. Puis quand tu te revois, la petite magie, les papillons sont là.
Oui, et... c'est ça l'avantage, en fait, de la relation à distance. C'est que ça permet de... Oui. Tu sais, les hormones, tout l'effet, là, le cocktail chimique et biologique, là, en fait, qui se crée, l'oxytocine et tout, ça peut revivre, semble-t-il, soit après une séparation ou une infidélité. Paraîtrait-il.
Honnêtement, avec la distance, ça a vraiment marché.
Mais oui.
Tu sais, il a été... On était longtemps on and off, tu sais, on était ensemble, mais tu sais, il revenait, après ça, il repartait un petit bout. Puis honnêtement, tu sais, on n'a pas le choix de s'échanger des petites vidéos, des petites photos, de s'acheter. On dirait qu'on fait un petit peu plus d'efforts parce qu'on n'est pas toujours ensemble, tu sais. Moi, j'aimais ça. Dans le moment, je trippais pas tant au début, mais après ça, là, je suis comme, ah, mais ça fait longtemps que t'es pas partie. T'sais, même ça, ça fait longtemps qu'on a pas eu le petit tease, tu sais.
Parce que tu finis par apprécier un peu tes moments à toi, puis de créer ta petite routine.
Mais pour de vrai, vraiment. Puis, tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas d'enfant. Fait que, tu sais, j'étais vraiment toute seule. Moi-même, je faisais mes affaires, je voyais mes amis. Puis, tu te prends ton bait, pour vrai. Puis, des fois, quand ils reviennent, ben là, ils en ont parlé tantôt dans le show, c'est déstabilisant quand ils reviennent aussi. Là, ils viennent comme tout bugger ta routine. Puis
ben
là,
oui.
Tu te retrouves tu t'adaptes, là.
Parce que là, au travers de tout ça, en plus, vous avez créé une famille.
Ben, écoute, on est allé en Nouvelle-Écosse pendant 3 ans et demi, puis il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était la pandémie, et il n'y avait pas grand-chose à faire à Greenwood en Nouvelle-Écosse, donc on s'est dit, bon, on va faire un bébé, on était rendu là. Puis là, tu sais, depuis ce temps-là, il est parti 6 semaines quand j'étais enceinte, comme, tu sais, puis il a failli manquer le baby shower, là. Ça, c'est un... Mm. C'était 6, en tout cas, ça ressemble à 6 semaines.
C'était 3 mois, je
pense. C'était 3 mois? C'était 3 mois. On est parti 3 mois après. En tout cas, on ne sait plus, on ne fait plus le compte.
Il a failli manquer le baby shower parce qu'il est parti...
Il est resté plus longtemps. C'était supposé d'être comme 3 semaines. Finalement, ça a viré en comme 6 semaines. Il a changé de place. Il ne pouvait pas me dire il était où. Il ne pouvait pas me dire quand il revenait. Moi, j'étais dans l'angoisse. J'étais enceinte. Puis là, j'étais là, le baby shower, s'il n'est pas là, on va faire ça en vidéoconférence. Ça va être cool.
Cette espèce d'angoisse-là, Marissa, que tu vis, forcément, ça vient aussi avec de l'ennui là, quand ton chum est parti pendant un bon bout de temps. Est-ce que tu t'habitues à ça à longue ou pas du tout?
Ben oui et non. Je dirais que c'est toujours aussi difficile de dealer quand même avec l'absence, de pas être avec la personne qu'on aime. Mais c'est vraiment comme, il en parlait tantôt, les 6 semaines avant, l'anticipation. Des fois, j'avais hâte qu'il parte pour que ça soit fait, pour que, tu sais, l'anticipation de partir, de comment ça va se passer.
Est-ce que tu avais l'impression d'arrêter de vivre dans l'anticipation un peu, comme si votre couple était déjà sur hold?
Ben, je dirais oui et non. Ça dépend vraiment comme... Je l'ai pas senti comme ça, mais on dirait que j'étais tout le temps sur le stress de l'anticipation d'il va partir. Fait qu'on dirait que j'étais comme, voyons, j'ai hâte qu'il parte juste pour qu'il revienne ou pour, tu sais, pour être dans mon beat, puis de prendre mon beat, puis dans le milieu, souvent, c'est là que c'est moins pire un peu. On dirait que là, tu t'es habitué, t'as comme ta routine, puis là, les 3 semaines avant qu'il revienne, là, t'es plus capable, puis là, les journées sont interminables, puis c'est spécial, mais tu t'habitues pour de vrai avec le temps. Sérieusement, s'il y a des filles qui capotent en ce moment, tu t'habitues. C'est toujours difficile, c'est toujours une adaptation, mais tu deviens plus forte et tu te développes des trucs à chaque fois.
Puis, question pour François, là, est-ce qu'il est vrai qu'il y a des endroits intimes à votre disposition pour vous autosatisfaire?
Mon Dieu Seigneur, j'ai jamais entendu parler de
non?
ça.
Non!
Hey, il veut pas dévoiler les secrets, là.
C'est une femme de militaire qui m'a partagé ça.
Il nous le dira pas.
C'est différent aussi. T'sais, moi, je suis un métier de l'Air Force. Fait que la réalité que j'ai par rapport à, mettons, des métiers de l'armée de terre ou des métiers de combat est complètement différente. Moi, quand je pars en déploiement ou en mission, je vais être dans des pays que, tu sais, on est quand même vraiment bien logé, puis on n'est pas dans les situations qu'on va être dans le milieu de combat.
Je comprends.
Qui sont en conflit. On est toujours, tu sais, moi, je travaille avec l'aviation, fait qu'on est toujours un ou deux pays beaucoup plus loin pour pouvoir se déployer. Donc, je vis pas dans les mêmes...
Les mêmes conditions.
Situation,
hein? Mais non, il a sa propre chambre d'hôtel. Là.
Oh, donc, OK.
Ils sont pas dans le clos, là.
Ah oui, il a le temps de mettre du lub et la boîte de Kleenex. Ben, ah ouais, non,
c'est pas ça. Il y a masse d'espace dans sa chambre d'hôtel.
Moi, j'ai masse.
Puis toi, Marissa, en tant que femme de militaire, à quel point sortir avec un militaire, ça a chamboulé les plans que tu avais faits de ta vie?
Oh, mon Dieu!
200%!
Ça a tout changé, ça a tout. Mais en même temps... Ça a tout viré à l'envers parce que moi, j'avais un plan. Là. Je faisais dans ce temps-là du marketing de réseau. J'allais monter ça, puis j'allais être à la télé, puis j'allais devenir une célébrité de la télé, puis Miss Météo. Puis ça m'a donné une claque d'en face. Là. Vous n'avez même pas idée. Puis il a fallu que je me réinvente. T'sais, on est déménagé, une province anglophone, pas ma famille, pas mes amis. J'ai aucun repère sauf mon chum. Ça parle même pas ma langue. J'ai aucun travail. J'ai plus une scène. Puis là, je suis comme, là, il va falloir que je me réinvente, puis il va falloir que je trouve quelque chose. Fait que ça a tout changé, mais en même temps, ce que je vis aujourd'hui, avec les paillettes, avec mon travail, avec les réseaux sociaux, j'aurais peut-être pas développé ça si je m'étais pas emmerdée là-bas, puis j'avais pas usé de ma créativité et ma résilience. Pour de vrai, j'aurais pas cet emploi-là, j'aurais pas cette force-là, cette confiance en moi-là. Tu sais, j'étais allée chercher de l'aide. Là. On parlait du centre de la famille tout à l'heure. Je suis allée là-bas, ils m'ont tellement aidée, ils sont tellement présents. On se bâtit un réseau aussi avec des gens qui vivent la même réalité que nous, puis des gens qui veulent aussi grandir là-dedans, parce que c'est facile de s'apitoyer puis de devenir une victime de ce monde-là. C'est super facile, mais en même temps, c'est tout ça que tu as envie de vivre? Non, tu sais. Fait que ça, je me suis entourée de... J'ai été chercher de l'aide parce que j'ai fait une dépression quand on a déménagé, pour vous dire à quel point ça m'a...
Quand vous êtes partie en Nouvelle-Écosse?
Ouais, j'ai fait une dépression pendant l'été. Puis vraiment intense, là. Ça allait pas du tout. Puis je suis allée chercher de l'aide, je suis allée voir le médecin, je suis allée voir la travailleuse sociale. J'étais là, à l'aide, ça va pas, mais j'ai envie que ça aille mieux. J'ai eu tous les trucs possibles. Puis pour vrai, ça l'a fait que je suis plus forte aujourd'hui, puis que j'apprécie quand même un peu plus cette réalité-là. Ça nous apporte des super beaux avantages. Il n'y a pas que des désavantages, mais il faut les voir, puis il faut... Tu sais, faut vraiment comme mettre ses lunettes roses puis essayer de voir qu'est-ce que ça peut t'apporter au lieu de qu'est-ce que ça t'enlève, tu sais.
Oui. Puis ça n'a pas dû être évident quand même, la grossesse à distance et tout.
Loin de la famille.
Non, ça a été quelque chose que j'ai trouvé, encore aujourd'hui, que j'ai trouvé très, 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 très difficile, parce qu'en plus que quand je tombe enceinte, c'était le début de la COVID. On était en région éloignée, loin de ma famille. J'ai pas pu les voir. Je les ai vus une fois pendant ma grossesse, mon gender reveal. Puis après ça, je les ai revus, mon bébé, avec 4 mois, tu sais.
Wow.
Fait que ça a été... Puis moi, je suis très proche de mes amis, de ma famille. J'ai pas pu avoir, tu sais, comme le
soutien.
Ben, c'est ça. Je l'ai eu d'une certaine façon, comme je pouvais l'avoir. Mais pour vrai... ça a été super difficile pour moi. Ça a été un deuil à vivre. Fait que c'est pour ça qu'on avait un deuxième pour revivre ça, mais plus proche de la famille.
Hey, c'est quoi les plus gros challenges que tu as rencontrés et que tu rencontres encore dans ta vie conjugale avec un militaire, Marissa?
Honnêtement, je pense qu'ils sont plus les mêmes. Au début, je pense que c'était tout le temps l'incertitude, le changement, le fait de... que ça... J'ai tellement trouvé ça difficile que pas qu'on me prenne pas en considération, mais c'est comme si ma carrière passait en deuxième.
Ouais.
C'est comme, t'es pas importante, toi, t'es juste la conjointe, c'est ton chum en premier, sa carrière en premier. Puis quand t'es une fille très carriériste, qui veut une grande carrière, puis qui
t'avais beaucoup d'ambition.
C'était ça, moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Puis après ça, je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais passer en deuxième, je peux bâtir mes propres choses par moi-même. Puis ça m'a donné le coup de pied aux fesses pour le faire. Ce que je dis aujourd'hui, je pense vraiment plus que c'est l'incertitude, puis le changement constant. Les départs, c'est sûr que mon chum, il est parti plus souvent dans les débuts. Là, vu qu'il est comme nouveau à sa job depuis un an, il est plus en formation, fait qu'il part moins. Mais c'est toujours le fait, il va-tu partir, combien de temps ça va-tu changer, je vais-tu... T'sais, c'est un peu toujours de dealer avec les imprévus puis de lâcher prise. Pas mal. Puis d'être loin de sa famille dans ce temps-là, là, je suis plus loin. Mais d'être loin de sa famille, j'ai trouvé ça difficile, sauf que de s'entourer de personnes qui deviennent ta famille. Moi, j'ai trouvé des amis en Nouvelle-Écosse qui sont... encore ma famille, puis à qui je parle encore, qui ont été vraiment présents. Ça, c'est quelque chose vraiment important de s'entourer de ces personnes-là dans ces moments-là.
Puis quand ton chum est parti, là, au day-to-day, qu'est-ce que vous mettez en place pour, Mel en a fait brièvement mention tantôt, mais pour alimenter la flamme, pour jeter l'huile là, un peu sur le feu de l'amour? Là. Qu'est-ce que vous faites là, à longueur de journée pour que ça fonctionne?
Est-ce que vous parlez à tous les jours?
Oui, comment ça marche?
Lui, il n'est pas au front, il est pas dans le... J'ai pas de Wi-Fi, fait que tu sais, il était dans sa chambre d'hôtel, il travaillait vraiment, vraiment beaucoup avec le décalage, mais quand on pouvait se parler, s'appeler un petit FaceTime, tu sais, des fois, on se faisait des soirées qu'on... Moi, je prenais du vin, toi, tu chillais dans ta chambre. Je sais pas, t'étais où, mais on essayait de se trouver des moments quand même pour se parler. Parce qu'à un moment donné, je me disais, on dirait qu'on se parle pas, tu sais. C'est comme, on veut profiter de nos moments, je veux pas attendre après lui, mais on trouvait des moments pour se FaceTimer, puis on s'envoyait surtout des beaux messages. On fait, tu fais moins ça quand t'es au quotidien, des messages cochons le soir ou des messages pour teaser, hey, quand je vais revenir, ça va être ça, puis on va faire ci. On s'était booké un voyage. On s'était dit, à chaque fois qu'on vit comme des longues périodes de distance, on se book un voyage, puis tu sais, on s'en va dans le sud ensemble, puis on vit quelque chose, on se gâte à après.
C'est l'important là-dedans aussi, c'est garder, c'est comme n'importe quoi, une relation à distance. Tu veux attisser la flamme, tu veux garder aussi la passion qui est là. Fait que tu vas faire la même chose que tu vas faire dans n'importe quelle relation à distance. Tu vas décrire des textos, tu vas faire des petits mots cute. Tu vas faire en sorte de garder comme l'intérêt aussi avec l'autre personne. Là.
Ouais, des photos sexy aussi de se montrer, mais pas trop. Là, ça fait 8 ans qu'on était en couple, on s'est vu tout nu, ça va, là, mais il m'a fait accoucher, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, de garder le petit tease, pas juste de dire, hey, je t'envoie une photo de même, comme, OK, attends un peu, je vais travailler un peu.
Gardez le mystère.
Ben oui, c'est ça, tu sais, des petites vidéos par-ci, par-là, de se teaser. Pour vrai, il y a moyen de le faire, il faut juste que les deux soient willing.
Se mettre comme des petits projets, comme des petites récompenses. Hein. Mettons, moi, je suis parti, comme elle disait tantôt, assez souvent, tu sais, des 3 à 4 mois, j'étais bloyé, je partais en mission, puis, tu sais, c'est quand même des longues périodes, tu sais, moi, je travaillais des fois des 12 à 16 heures par jour. Fait que tu viens que t'es fatigué, puis t'es vraiment focusé là-dessus, puis tu t'ennuies, mais t'essaies de pas trop y penser à ta famille aussi, parce que ça t'affecte énormément dans ton travail, puis dans ta santé mentale, veux pas.
Mais
là,
oui.
Fait que t'essaies de te créer comme un petit tanguin. Quand, OK, au retour, on va faire telle chose, tu sais. Veux pas.
Space pour se retrouver.
Exactement. Ouais. On se prévoit des voyages, on se prévoit des activités pour dire, OK, gars, c'est comme à ça qu'on se rattache pour dire, ah, ça va être trippant qu'on s'en voit. Parce que si tu deviens à trop penser à t'ennuyer à ta famille, ben, c'est là que tu tombes dans un espèce de cercle vicieux que si t'en sors pas, tu t'ennuies trop, puis là, tu stresses, puis là.
Ouais.
Ouais.
C'est très maladif à la longue.
Ben, en tout cas, vous êtes pas mal inspirant comme couple, puis avoir tout ce que tu partages, Marissa, tu sembles très authentique et je pense que tout ce que vous partagez, c'est sincère, puis vous êtes vraiment cute sur les réseaux sociaux.
Trop vite. Ben, j'essaie le plus possible de montrer le beau, mais aussi le vrai, parce que je pense qu'on en veut sur les réseaux sociaux de montrer la réalité des conjointes de militaires, mais de montrer que t'es pas juste la conjointe de militaire, t'es aussi toi, puis qu'il y a moyen que ça soit sexy. Moi, en tout cas, là, j'ai comme... Ça fait longtemps que t'es pas partie, puis je suis comme, hey, tu sais, d'avoir un petit... C'est con, là, avant...
J'ai hâte qu'ils partent!
Mais honnêtement, j'ai dit, mais ça fait longtemps que t'es pas partie, puis avant, j'aurais fait, non, reste, je veux pas qu'ils partent. Puis là, je suis comme, ah, ça va être cool, tu sais, on va se teaser. Ça
parce que d'une certaine façon, ça vous permet de vivre votre relation d'une autre façon. C'est comme si votre relation avait un second souffle ou c'était vraiment une autre relation.
C'est comme si la flamme se ravivait tout le temps.
Exact.
Oui.
Tu viens beaucoup plus apprécier la personne avec qui tu comptes. Parce que, tu sais, quand tu tombes dans le quotidien, elle veut pas, là, tu sais, au jour le jour, c'est la routine, les affaires. Tu sais, là, tu tombes dans le ménage à la maison. Là, t'as pas fait ci, là, t'as pas fait ça. Mais quand t'es à distance, là, t'as juste à toi à t'occuper. Puis. La pensée à ta partenaire, puis là, tu t'ennuies, puis tu dis « Ah, je l'aime donc bien, puis j'apprécie. » Là, tu te rends compte à quel point tu apprécies l'autre dans ta vie, puis tu veux garder ça. Fait que ça vient ratisser cette flamme-là, puis vraiment plus l'énergiser. Puis quand tu reviens, tu apprécies chaque petite chose. Puis tu sais, les petites affaires qui t'énervent au quotidien, ça n'a plus d'importance parce que tu veux garder ça.
Ouais, vous êtes davantage dans le moment présent lorsque durant vos échanges et tout. Ah, c'est beau. Marissa, pour vous suivre sur les réseaux, est-ce que c'est principalement toi? Je ne sais pas si ton chum est bien actif aussi.
Non, mon chum n'est pas super actif, mais je mets beaucoup de nos stories de vie familiale, vie de couple et vie personnelle. Marissa Delisle, écoute, mon nom complet sur Instagram, surtout Facebook, mais surtout Instagram. Là, beaucoup de divertissement dans mes stories.
Absolument, t'es extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir partagé un petit brin de votre intimité avec nous. Ça a été très apprécié et au plaisir de se rejaser. Donc, merci. C'était Marissa Delisle et François Bellé, donc conjointe de militaire et François étant militaire.
Merci beaucoup,
bonne fin de soirée.
Merci beaucoup.
Salut, bye.
On poursuit cette belle discussion en compagnie de Justin et Mélodie, qui, eux, vivent aussi une relation à distance, mais parce que Justin est marin.
Oui, tout à fait.
Vous êtes tout jeune, vous êtes quand même déjà marié.
On est fiancé,
excusez-moi.
Ouais.
OK. Wow, a minute.
OK, mais vous avez quel âge, là?
Moi, j'ai 20 ans.
Moi, j'ai 21,
hey, comment ça, on se marie à cet âge-là?
On s'est fiancés.
C'est pas un jugement, là.
Ils se sont fiancés.
Ah, vous êtes fiancés, excusez-moi, je suis dans la lune. Comment on se fiance?
Comment est-ce qu'on se fait l'un à l'autre, dans le fond?
Ben, je pense que c'est pas juste ça, là. Je pense qu'on est rendu à la même place aussi dans la vie. Là.
Okay.
Moi, puis Justin, on a les mêmes objectifs sur le long terme.
C'est ça, dans les échanges qu'on a eus, je sentais que vous étiez quand même très mature. J'ai fait un saut quand j'ai appris votre âge, honnêtement. Mais c'est ça. Donc, toi, t'es marin depuis combien de temps?
Moi, dans le fond, là, j'ai fait ma première run. Je suis parti
c'est
au
ta
mois.
Première année.
Ouais, c'est ma première année, dans le fond. Je suis parti au mois de mai. Au mois de mai, puis je suis revenu, là, v'là trois semaines, là. Fait que ça fait comme sept mois d'une shot.
Mon Dieu, moyen voyage?
Ouais, c'était un bon voyage.
Tu fais quoi exactement?
Moi, je suis assistant mécanicien.
OK.
Dans l'article canadien, là, fait que...
J'ai
pris un café dans le Tim Hortons, le plus au nord au monde, ouais.
Wow! Puis vous vous êtes rencontrés comment?
Un ami... commun, en fait, qu'on avait. Puis j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux de cet ami-là. Puis là, j'ai fait « Hey, c'est qui ce beau bonhomme-là? » Ben là, c'est même qu'on s'est rencontrés.
Et là, donc, ça a cliqué. Par contre, lui étant marin, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Tu savais que tu t'embarquais dans une relation à distance, principalement.
Oui, puis non, parce que dans les débuts qu'on s'est rencontrés, c'était pas encore concret. Il avait pas encore commencé son cours, puis dans ma tête à moi. T'sais, c'était pas encore sérieux. C'est sûr que dans les débuts qu'on s'est connus, c'était beaucoup plus amis avec bénéfice. Il y avait aucun... on se voyait
engagement.
Pas. Non, exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début, non, je m'étais pas du tout engagée là-dedans. C'est pas facile.
Il y avait aussi la conscience que, tu sais, je savais, j'étudiais pour faire ce métier-là. Je savais où ce que moi, je m'en allais. C'était pas nécessairement non plus un moment où ce que je cherchais quelqu'un. Vous savez, tu sais, quand tu te dis, tu sais, je vais partir six mois par année, j'ai 20 ans à l'époque, tu sais, tu te dis, est-ce que je veux une relation, puis tout. Tu sais, des fois, on trouve, puis on cherche pas nécessairement, là.
C'est là, ça c'est, je le disais hier, l'amour se présente toujours au moment où on s'y en attend le moins.
Ouais,
et ça, croyez-le ou non, c'est ça.
Ouais,
exactement.
Puis tantôt, t'as dit que c'était pas facile dans les débuts de votre relation de t'engager là-dedans. Qu'est-ce qui te faisait peur d'en t'engager dans une relation à distance?
Je suis très, très, très dépendante affective.
Oh,
my! Ouais, puis ça, tu sais, ça, je l'ai toujours su, là. Ça n'a jamais été un secret pour moi, là. Puis ça, je pense que ça a été mon plus gros défi de... Tu sais, surtout qu'on a habité ensemble longtemps... Du jour au lendemain, il repart, je retourne chez papa, maman.
Longtemps, mais là, ça fait un an et demi que vous êtes ensemble environ?
Ouais.
Fait qu'on a habité ensemble à peu près six mois.
OK. Vous avez habité ensemble, il est parti.
Là, il est parti. Là, après ça, tu sais, moi, j'avais plus les moyens pour l'appartement tout seul. Fait que là, moi, je suis retournée chez ma mère. Puis là, après ça, tu sais, justement, comme tantôt, ça disait, tu t'habitues à ça. Puis finalement, il revient. Puis là, c'est l'adaptation de vivre à deux à nouveau. Tu sais, que c'est 7 mois où est-ce que tu vis seul. Puis que du jour au lendemain, monsieur revient H24 à la maison. Quand tu t'es habitué avec ton mode de vie à toi, c'est pas facile.
Ouais. Et là, on en est où dans les plannings, là, dans le là, vous êtes fiancés. Qui a demandé qui comme fiancé?
J'ai demandé.
C'est vrai?
Oui.
Tu l'as attaché. Ouais. Ah, c'est très drôle. Mais en même temps, toi, t'étais à l'aise avec ça?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Wow! Puis...
Pourquoi attendre que lui me le demande quand moi je veux?
Ouais, c'est ça.
Comment ouais, ça s'est fait?
Peut-être plus attendre longtemps.
Mais c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, ça, la fille non. qui demande l'homme.
Non, mais ça, moi, ça m'a jamais dérangé, puis ça me tentait pas d'attendre.
Moi aussi, je serais game.
Ah oui, fuck les normes, fuck les préconceptions. Oui, à un moment donné,
on est moi, en 2023. Moi, ça me tentait, je viens demander, pourquoi pas.
Hey, comment ouais. ça s'est fait?
Mon Dieu, ça a été par Internet.
Ouais, ça a pas été la grande déclaration comme tu sais on peut
pendant que vous étiez à l'extérieur sur le bateau.
Ouais, j'étais à l'époque à Coudjouac, fait que là c'est ça. Ouais. Elle m'appelle, elle me dit hey là faut que je te parle, puis elle m'annonce ça comme ça. Là, je fais wait a minute là, c'est comme ça qu'on fait. Tu sais avec reste moi aussi je pense comme vous autres. Hey, je suis en train de me faire demander en mariage là.
Par Internet, ben, tu le disais tantôt, on est en 2023.
Ouais, hein? Ben, c'est ça.
Mais là vous êtes après le premier long voyage que vous avez vécu dans votre couple, donc la première longue absence.
Ouais.
À la suite de cette première longue absence-là, comment vous voyez la suite des choses? Est-ce que vous avez eu des choses à régler, des moments d'adaptation tout au long du voyage? Aujourd'hui, comment ça va?
Tout à fait.
Aujourd'hui,
mais dans le fond, là... Ouais, c'est ça. Dans le fond, là, c'est... Tu sais, là, on prend une étape à la fois. Tu sais, oui, je suis parti longtemps, mais là, tu sais, je suis à la maison pour 8, presque 9 mois. Fait que, tu sais, là, on planifie ça, là. Tu sais, Mélodie est à l'école, on va partir... En voyage, probablement, là, tu sais, on prend une étape à la fois. Là, c'est sûr que je suis inscrit à l'école, justement, en Nouvelle-Écosse pour l'année prochaine.
Oh.
Fait que là, ça me faisait rire quand on entendait là, les participants d'avant parler de
mais
ça.
Oui. Mais...
Fait que, ouais, c'est ça. On va vivre la réalité de.
Donc, tu vas le suivre là-bas?
Oui, exact. Ouais. Ouais,
et toi, t'étudies en quoi?
Moi, je suis en dessin en bâtiment.
Ah, OK. Ouais. OK. Donc, tu pourrais travailler quand même.
Ben, tu peux faire des dessins
ben,
sur le bateau.
Oui, dans le pire des cas, oui, je pourrais. Là.
Est-ce que de fonder une famille, c'est quelque chose que vous envisagez éventuellement?
100%. Oui, 100%. Ouais. Ça, c'est sûr. Là.
On parle dans un avenir rapproché?
Après
ou...
la fin de ses études.
Fin de
lui,
études.
Ça va faire un bac. Fait que c'est 4 ans son bac. Puis après ça, là, on s'est dit que là, on allait être prêt.
Enfin, mariage, là, tout là. Puis là, on commence notre vraie vie d'adulte à ce moment-là. Ouais.
Et là, en étant sur le bateau comme ça pendant 7 mois, premièrement, est-ce que c'est un travail temps plein pour toi? C'est-à-dire, tu pars 7 mois, tu reviens 8 mois, tu repars. Est-ce que tu dois te trouver autre chose?
Ça dépend des contrats. Tu sais, moi, dans le 7 mois, j'ai fait 2 contrats. Fait que pendant les 3 premiers mois, j'étais à une place. Les 4 autres derniers mois, j'étais à une autre place. Mais ouais, c'est vraiment là, c'est 12 heures par jour, travailler à côté.
Et
t'sais.
Là, les communications doivent pas être évidentes parce que j'imagine que tu n'as pas toujours accès au Wi-Fi.
Non, mais c'est ça. T'sais, dans l'article canadien, ça dépend de la météo, ça dépend des marées, ça dépend de plein de facteurs. Là, cette année, c'est vraiment un renouveau pour le monde maritime. Là, c'est comme la première année avec Starlink qu'on a vraiment le réseau. Peu importe où ce qu'on est.
Oh, intéressant.
Mais encore là, il bug.
Ouais, c'est ça. On l'a.
C'est pas tous les jours qu'il fonctionne.
Ouais. OK.
Il marche théoriquement partout, mais c'est sûr que tu sais, ça, on reste sur un bateau là, avec les mouvements et puis tout. Ben,
dépendamment
c'est...
aussi de la température.
Ouais, c'est ça. Là.
Et là, tu l'as quand même vécu. Est-ce que tu as eu une petite remise en question ou tu t'es dit non, c'est vraiment ce que je veux faire? Puis.
Ben. C'est sûr qu'il y a eu des remises en question. Tu sais, à un moment donné, là, j'ai appelé Mélodie, j'ai dit, là, c'est fini, j'embarque plus jamais sur un bateau. Là, on fait... J'ai dit, on s'achète une caravane avec l'argent que j'ai fait pour on 10 ans. Ouais, tu sais, ça... Mais tu sais, on se dit, on veut quand même vivre, tu sais, notre vie d'adulte aussi, oh, oui. Puis, tu sais, fonder une famille. Je veux dire, regardez-la, on va faire des beaux enfants.
C'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, faut penser aussi à plus tard, tu sais. Partir sur le flanc comme ça avec une caravane, tu sais, c'est pour nos plans plus tard, c'est pas envisageable.
Mais ben, ça pourrait, on envoie des familles parfois partir sur un voilier.
Oui, mais plus tard, mais tu sais, si on veut un
là,
jour faire ça avec nos enfants.
Je vous écoute, vous autres, là, vous avez 20, 21, vous avez des plans pour le futur. Qu'est-ce qui se passe, là? Êtes-vous l'espèce d'exception dans votre cercle d'amis?
Oui.
Oui, hein? Parce que moi, je connais aucune personne de 20-21 ans qui a des plans comme ça à cet âge-là.
C'est ça, c'est peut-être aussi un symptôme d'avoir passé, tu sais, 7 mois loin de l'autre, tellement aussi, tu sais, on s'est tellement...
Pas juste ça,
mais tu sais...
Dans vos personnalités, vous semblez quand même être plus mature, peut-être que...
Énormément. J'ai toujours su ce que je voulais.
Puis toi, Mélodie, l'absence de ton chum, là, tu disais tantôt que tu étais dépendante affective. Ouais. Quel ajustement tu as eu à faire au niveau de ton quotidien pour être capable de passer par-dessus ça?
Ben, tu sais, c'est pas tant... Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup le côté de « pendant que monsieur est parti », mais on voit pas le côté... On en parle beaucoup moins du côté de « avant ». Tu sais, comme tantôt, oui, là, ça parlait du 6 semaines d'appréhension, de tout ça, qu'elle avait quasiment hâte qu'il parte. Moi, c'est pas du tout ça. C'était 3 semaines avant qu'il parte où est-ce que j'ai commencé à être très désagréable avec Justin.
Oh non!
Parce que je voulais comme me détacher, puis que comme ça, quand il parte, je me dise « enfin, il part » parce que j'étais cœurée de lui. Fait que c'est comme 3 semaines
une
où est-ce que...
d'abandon ou de... une
comme si
d'abandon.
J'essaie de me protéger moi-même à ne pas avoir trop de peine quand il parte. Fait que
puis rester...
Ouais.
Être un bon amour.
Je peux rester, là, je suis partie 7 mois.
Ouais, non, mais je veux dire, t'es quand même resté. C'est compliqué.
Mais tu sais, je pense que ça aussi, il s'en rend compte que c'est pas évident pour moi aussi, ça. Là, parce que justement, je suis dépendante affective, ça me fait mal quand il part. Ça me fait très mal. Puis c'est comme un petit peu un mécanisme de où est-ce que je me protège, où est-ce que je me rends à ce qui me pousse à bout. Que je me dise tant mieux qu'il parte.
Mais là, ce sera pas comme ça chaque fois, là.
Non, mais tu sais, c'est ça, c'est la première violent. Fois. C'est la première fois.
C'est la première fois. Adaptation. J'imagine que là, tu arrives à trouver des passions puis des trucs qui t'allument.
Ah oui, puis justement, je profitais de mon temps seul. C'est sûr que le premier mois, ça a été
super
difficile.
Il faut qu'il continue de t'admirer quand il revient. Ben, là. Hein? Faut pas qu'il va juste une grognonne.
Quand il revient, là, je suis au meilleur de ma forme.
Wow. OK. Puis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre histoire. Est-ce que vous auriez d'autres petits trucs à ajouter ou des trucs à mentionner aux auditeurs pour les gens là, qui voudraient s'embarquer dans une relation comme ça, là, à distance, en toute connaissance.
Le réseau est primordial.
Le réseau d'amis, le réseau Wi-Fi.
Oui, c'est ça.
7 mois sans se toucher, sans s'embrasser, sans se voir, c'est difficile.
Ouais.
On a besoin d'intimité par Internet.
Le plus long moment entre des échanges, ça a été quoi?
Ouf. 2 jours? C'est... Deux jours, ouais, c'est une grosse tempête.
C'est ça. Non, c'est vraiment pas si j'ai eu une tempête, puis là, on n'a pas pu se parler. Puis le pire, c'est vraiment genre, tu sais, d'habitude, on se parlait à tous les jours quand même, relativement, sauf que cette journée-là, j'ai pas pu lui texter. Puis sans dire que je pouvais, tu sais, je pourrais pas. Fait que là, c'est sûr,
Moi, je paniquais. Je pensais que le bateau avait chaviré. Moi, pas de nouvelles.
Aïe, aïe, aïe. Tu savais qu'il faisait tempête.
Ben oui.
C'est ça. Le
Titanic. Moi, j'étais veuve, là. Ça y est. Moi, j'allais élever mon chihuahua tout seul.
Et là, vous êtes fiancée. Est-ce que le mariage est envisagé déjà pour un moment particulier?
Ben, justement, à la fin de ses études. Nous, on a la journée de son diplôme. Nous, on a prévu.
Puis vous allez faire ça dans le Tim Hortons le plus au nord, j'imagine.
Comme
un couple digne de ce nom.
Donc c'était comme un signe d'amour finalement, c'était un symbole
pour
vous
deux.
Une promesse, c'est ça, une promesse qu'on se faisait.
Que c'est pas facile, mais qu'on reste malgré tout, puis que c'est pas vrai qu'on va bien réagir la première fois parce que c'est notre première fois tous les deux, puis qu'il faut se laisser une chance là-dedans aussi.
C'est quoi, ils sont tous cute, Mel?
Ah, c'est l'enfer.
L'enfer.
Mon Dieu, vous êtes le couple le plus cute de 20-21 ans que j'ai vu. Vraiment. Ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ça a été très apprécié.
Merci à vous.
Parce qu'on en parle depuis longtemps.
Ouais, c'est vrai, ça a été compliqué,
Merci beaucoup. Puis, c'est ça, on a trouvé un peu la twist là, avec le sujet de ce soir. Je pense que c'était vraiment...
Ça a bien donné, c'était intéressant.
Vraiment. Puis, ce qui est intéressant, c'est que jeudi soir, avec Dr. Paul Simard, eh bien, on va parler justement des langages amoureux et des symboles, des bagues. Moi, j'ai les bagues à mes ex. J'adore les bagues de mes ex.
Bon,
je vais fondre et je vais créer un nouveau bijou grâce à François Quentin, joaillier. Donc, je vais faire ça. Là,
ça va être une bague avec un petit fuck you dessus.
Non, moi, je suis en bon terme avec toutes mes ex.
Ah oui?
Pas mal.
Il va falloir que tu donnes ton secret là, pendant l'émission avec Paul.
Ouais, lâcher prise. Choisir ses combats. Et oui, ben tu sais, en
et
fait...
Et porter leur bague.
Moi, ben porter leur bague, je les ai retrouvés. Il y a des gens qui sont complètement en désaccord avec ça.
Ben oui, on sait des bijoux, comme, là, on va revenir.
Hey, c'est un bijou que j'ai retrouvé, que j'aime. Moi, je pense pas à eux autres chaque fois que je les vois, là.
Ben non.
Comme, j'aime la bague. Puis ces personnes-là, ils m'ont apporté quelque chose de bien, ils m'ont fait grandir, ils m'ont fait évoluer.
Ben c'est comme si t'es en couple avec quelqu'un, t'habites avec, là, il s'en va ou elle s'en va, puis t'as son divan.
C'est ça.
Le divan avec qui t'étais en couple, tu vas le garder, là, tu feras pas. Oh non, voilà. il s'assoyait ou elle s'assoyait là-dessus.
Exactement. Donc, c'est ça. Alors, ben merci beaucoup. Longue vie à votre amour. Merci d'avoir partagé cette belle histoire avec nous. C'est un plaisir, Justin et Mélodie. J'aimerais sûrement vous reparler peut-être dans un an, là, voir où est-ce que vous en êtes.
L'évolution
de tout ça.
On va être en Nouvelle-Écosse rendu là.
Parfait, ce sera par téléphone par Messenger grâce à Starlink. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Merci à tout le monde d'avoir été sur le live du TikTok. Malheureusement, comme on dit, on ne pouvait pas lire les messages. Pour le Sapin Radio X, donnez en grand nombre, donnez généreusement au 418-670-9098. On texte le mot « sapin ». Vous pouvez également vous rendre au sapin.radiox.com et c'est, mon Dieu, on a quand même, en tout cas cette semaine, là, ça a bien été là, les dons, donc on veut dépasser.
Ouais, il nous reste 10 000 là, à trouver. À peu
hey, oui, let's go, 10 000 gang, 10 000, on est capable, si jamais on a des donneurs, en tout cas, bref, moi, Max, on veut vous préparer un petit quelque chose, là. On veut aller prendre un verre avec vous autres. Puis,
let's go.
Vous, la lecture érotique aussi, pour 200$. Hein?
Ah, c'était pas 5, c'est 200, c'est ça.
200.
Ouais. C'est moi puis toi qui lis une nouvelle oui. érotique. Moi, je vais faire une petite prod avec de l'ambiance, de la belle petite musique en arrière.
Oui.
Puis vous allez pouvoir utiliser ça dans la situation qui vous convient.
Voilà, une nouvelle érotique lue par Mel et Max avec, je vous le dis, on va se donner, là. 200$, don sapin au 418-670-9098 ou le sapin.radiox.com. Un énorme merci à tout le monde. Merci, chers auditeurs, d'être là tous les soirs. C'est un rendez-vous demain soir avec Paul. Paul Lévesque va être avec nous demain soir. Ça va être super le fun.
J'ai tellement hâte de parler. J'adore cette femme.
On l'aime tellement. Merci, Max, d'être là. Merci toujours un plaisir. Sans toi, je n'existerais pas.
Ouais, la... ça va tu. Sans toi, j'existerais pas.
Non, mais la exploratrice, elle n'existerait pas à soi si t'étais pas là. Moi, je peux pas opérer une console.
C'est bon. Mais là, je m'en vais tantôt. Là. J'ai pas à craindre pour ta vie.
Non, ça va bien aller. Merci tout le monde. Vous étiez à l'écoute de la exploratrice sur les ondes de choix 98 à Radio X.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.